France Culture.
Le journal est présenté par Mélanie Kuzelevitch. Bonsoir Mélanie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Tir à l'arme automatique et voitures brûlées. Plusieurs établissements pénitentiaires visés par des attaques coordonnées dans toute la France. Réaction contre les mesures prises contre le narcotrafic ou action militante libertaire. Plusieurs pistes sont envisagées. Tsunami, cyclone, guerre, le lexique de François Bayrou qui alerte sur un sombre diagnostic concernant les finances du pays, sans pour autant proposer de remède pour redresser les comptes publics. Les dérives autoritaires de Viktor Orban en Hongrie se multiplient, plusieurs eurodéputés sont à Budapest pour enquêter sur l'état de droit. Et puis cela faisait 15 ans qu'il n'avait pas été actualisé, la nouvelle version du référentiel des médecins généralistes sur la table, c'est le dossier de ce journal. Gérald Darmanin, au chevet du personnel pénitentiaire de Toulon, le ministre de l'Intérieur est en visite dans la prison du Var après les tirs à l'arme automatique la nuit dernière. Mais ce n'est pas le seul établissement pénitentiaire à avoir été visé depuis ce week-end à Nanterre, Réau, Villepinte, Aix-Luynes, Valence ou encore sur le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen. Des véhicules ont été incendiés et des murs tagués. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Ces actions sont vraisemblablement concertées. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire.
Oui, c'est bien la nature même de ces actions orchestrées. 9 établissements touchés depuis dimanche qui justifient la saisine du parquet national antiterroriste, action concertée dont l'objectif est de troubler gravement l'ordre public, indique une source proche de l'enquête. À ce stade, toutes les hypothèses restent envisagées, mais la piste anarchiste semble prendre le pas après la découverte de plusieurs véhicules incendiés la nuit dernière à Marseille, Aix ou encore Nîmes et d'une même inscription DDPF, droit des prisonniers français, un groupuscule qui se rattacherait à la mouvance d'ultra-gauche anticarcérale. Dans la nuit de dimanche à lundi, des incendies ont également visé, vous le disiez, le centre pénitentiaire de Réau en Seine-et-Marne, le parking de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. On a retrouvé un bidon d'hydrocarbures près des voitures des agents incendiés. Mais l'attaque la plus spectaculaire reste celle dirigée contre le centre pénitentiaire de Toulon, là où se trouve actuellement Gérald Darmanin. Des tirs à l'arme lourde effectués par plusieurs individus arrivés à bord d'un véhicule avant même la saisine du PNAT, le parquet local avait ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un mode d'action dénoncé dans un premier temps par Gérald Darmanin comme étant l'œuvre des narcotrafiquants, il est plus mesuré à l'instant dans ses déclarations. Le ministre de la Justice a par ailleurs révélé que les 2 futures prisons destinées à enfermer les criminels les plus dangereux, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, avaient fait l'objet de menaces. La preuve qu'on a touché là où ça fait mal. Mais ces intimidations ne marchent pas, a assuré le ministre. Avec cette promesse, tous les moyens seront mobilisés pour que policiers et gendarmes soient constamment présents près des centres de détention.
Des attaques qui ont provoqué colère et consternation parmi le personnel pénitentiaire en partie visé. Donc, même s'ils sont régulièrement pris pour cible, cette fois l'ampleur de ces attaques est inédite. Wilfried Funk est secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice.
C'est une attaque effectivement inédite. Généralement, on est plus habitué à avoir des voitures de personnel qui brûlent pour des règlements de compte un peu en interne, c'est-à-dire qu'une décision a été prise à l'encontre d'un détenu, le détenu n'est pas satisfait et donc il demande à ce qu'on brûle le véhicule d'un personnel. Là, pour le coup, on en est dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Aujourd'hui, on est dans un contexte effectivement très particulier. On a à la fois ce fameux contexte de surpopulation carcérale avec 82 000 détenus pour 62 000 places opérationnelles. Il nous manque actuellement 3 000 agents de surveillance dans les prisons françaises. Ça fait forcément grimper les tensions à l'intérieur des établissements. Et s'ajoute aussi à cela toute l'action menée par Gérald Darmanin qui souhaite durcir les conditions d'incarcération, notamment pour les narcotrafiquants, et en même temps créer de nouvelles places de prison pour pouvoir continuer à renforcer la politique pénale. Donc en effet, on a quelque chose qui se durcit. Donc à chaque action, il y a forcément parfois des réactions et on ne s'attendait pas, nous, à ce que ce soit finalement une réaction depuis l'extérieur. On pensait plus avoir des réactions à l'intérieur des structures et non pas à l'extérieur.
Des propos recueillis par Florence Turme. François Bayrou, bien alarmiste sur les comptes publics. Dans sa longue conférence sur l'état des finances publiques ce matin, le Premier ministre n'hésite pas à évoquer la gravité de la situation. Il parle d'un diagnostic sombre et alerte les Français sur le piège de la dette, comme pour mieux préparer les esprits à de futures décisions douloureuses. Mais en attendant, les remèdes restent bien flous. Malgré un vocabulaire catastrophiste, le chef du gouvernement n'est pas entré dans les détails des réponses à apporter, Rosalie Lafarge.
Il évoque d'entrée de jeu un rendez-vous crucial, des heures décisives, à l'issue d'un comité d'alerte sur le budget qu'il n'a pas présidé. François Bayrou plante un décor national bien noir.
Nous sommes le pays du monde qui dépense le plus d'argent public. Nous nous trouvons aujourd'hui au bord d'une situation de surendettement. C'est de la survie de notre pays qu'il s'agit. Nous devons mesurer la gravité de la situation.
Cette situation, le Premier ministre prend soin de la replacer dans un contexte mondial qu'il juge ultra chamboulé.
L'ouragan s'est dramatiquement aggravé.
La guerre ne s'est pas calmée.
Un tsunami de déstabilisation est venu chambouler la planète.
Un coup de semonce, ce tremblement de terre suivi de
tant de dégâts géopolitiques et moraux.
Le président des États-Unis a déclenché un cyclone.
Voilà le paysage tourmenté dans lequel se dresse la montagne de difficultés que notre pays doit affronter.
Il promet de ne pas se dérober. Le choix, c'est un impératif pour son gouvernement comme pour ceux qui suivraient, pose d'ailleurs déjà François Bayrou. Il insiste, le pays ne produit pas assez, ne travaille pas assez. Comment alors inverser la tendance? Les premières réponses, a priori sans hausse d'impôts, viendront d'ici mi-juillet, assure le Premier ministre, loin de convaincre le président insoumis de la Commission des Finances de l'Assemblée, Éric Coquerel.
J'ai plutôt l'impression qu'on a été figurant d'une opération de communication qui s'apparente plus à un exercice de propagande que de vérité.
Nous ne laisserons pas passer des mesures contre les Français, abonde Marine Le Pen au Rassemblement National. Pour faire taire la petite musique de la censure, elle monte en volume. Le Premier ministre, lui, cherche l'approbation de l'opinion, convaincu, et c'était le slogan de la réunion, que la vérité permet d'agir, espérant, mais sans garantie, qu'elle lui permette aussi de tenir.
Rosalie Lafarge est du côté des syndicats. La leader de la CGT dénonce aussi une opération de communication. Le Premier ministre n'a apporté aucune réponse à ces interrogations et interpellations, s'est insurgée Sophie Binet à l'issue de la réunion. C'est une comparaison qui passe mal. Le 6 avril dernier, lors de son rassemblement de soutien à Paris, suite à sa condamnation, Marine Le Pen s'est réclamée de Martin Luther King, défenseur des droits civiques aux États-Unis. Une référence qui n'a pas manqué de faire bondir, notamment une partie de la gauche française. C'est d'une indécence crasse, a réagi Manuel Bompard de LFI. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Mélanie.
Au-delà de la classe politique française, cette comparaison a choqué jusqu'à la famille de Martin Luther King, assassiné en 1968 par un ségrégationniste blanc.
Oui, le fils de Martin Luther King et son épouse, interrogé par BFM TV, estiment que cette comparaison de Marine Le Pen constitue une distorsion inappropriée de l'histoire. Il rappelle que la vision de la société de Martin Luther King était fondée sur l'unité plutôt que sur la division. Réaction également, vous l'avez dit, de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise estime que la comparaison de Marine Le Pen est, je cite, d'une indécence crasse. Il rappelle que les dirigeants du FN devenus RN ont été condamnés pour incitation à la haine raciale, ce qui est vrai. C'est le cas notamment du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, condamné plusieurs fois pour ce motif. Marine Le Pen, elle, en revanche, n'a jamais été condamnée par la justice pour des propos racistes. Dès 2007, alors qu'elle est directrice stratégique de la campagne présidentielle de son père, elle impose une affiche qui détonne avec l'idéologie du FN. On y voit une jeune fille maghrébine pousse vers le bas avec le slogan « Nationalité, assimilation, ascenseur social, laïcité, droite gauche ». Ils ont tout cassé. C'est le début de la dédiabolisation au nez et à la barbe de la vieille garde frontiste. Le RN reste un parti hostile à l'immigration, mais il évite désormais les excès verbaux chers à Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen n'hésite plus à invoquer l'un des symboles mondiaux de la lutte contre le racisme pour se victimiser. Sauf que Marine Le Pen n'est pas partie de zéro. Elle n'a pas créé son propre parti. Elle a hérité de celui de son père, avec l'histoire qui va avec.
Merci pour vos précisions, Antoine Marette. Fin du voyage pour les trains de la colère, usagers, élus locaux et acteurs économiques se sont donné rendez-vous à Paris. Gare d'Austerlitz à bord de deux trains partis de Cahors et de Clermont-Ferrand. Ils étaient 400 sur le parvis de la gare pour alerter sur l'état des lignes ferroviaires Clermont-Paris et Toulouse-Limoges-Orléans-Paris. L'objectif de l'opération, dénoncer des perturbations et des problèmes récurrents que subissent les usagers. En Russie, la décision est tombée contre les 4 journalistes accusés d'avoir collaboré avec l'organisation de l'opposant Alexei Navalny, le principal adversaire politique de Vladimir Poutine, mort l'année dernière. Les 4 journalistes sont reconnus coupables et écopent de 5 ans et demi de prison à Moscou. Sylvain Tronchet.
Dans ce procès qui s'est déroulé à huis clos, l'annonce du verdict était l'occasion pour leurs familles et leurs soutiens de voir enfin les 4 accusés qui sont arrivés dans le box sous les acclamations. Malgré la présence policière importante, menaçante, les applaudissements fusent, les 4 journalistes sont souriants, ils crient leur innocence à travers la vitre du box. Ne vous laissez pas intimider, Poutine est un meurtrier et un criminel de guerre, crie Antonina Favorskaya. Cette journaliste en profite pour glisser qu'elle est accusée d'avoir aidé à l'organisation des funérailles d'Alexei Navalny. Quelques instants plus tard, la sentence tombe, 5 ans et demi de colonie pénitentiaire pour participation à une organisation extrémiste, presque le maximum prévu de 6 ans. Antonina Favorskaya, Sergueï Karelin, Konstantin Gabov et Artyom Kriger viennent s'ajouter à la liste des journalistes condamnés en Russie. Tous les 4 faisaient partie des rares derniers médias indépendants à travailler dans le pays. La justice russe a procédé comme souvent en organisant ce procès à huis clos, en ne présentant publiquement aucune preuve, pas même les chefs d'accusation. La seule presse libre russe qui subsiste maintenant s'exerce en exil depuis l'étranger.
Sylvain Tronchet à Moscou, en Hongrie, ami de la Russie, toujours plus d'attaques contre les libertés individuelles. Après l'interdiction le mois dernier de la marche des fiertés, le Parlement hongrois vient d'adopter un amendement pour graver dans la Constitution l'existence des 2 seuls genres, masculin ou féminin. Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban avait promis en mars un grand nettoyage de Pâques contre ses rivaux, taxés de punaises. Il a aussi fait adopter un texte s'attaquant aux binationaux jugés traîtres à la nation. Le pays fait pourtant partie de l'Union européenne, mais l'état de droit est-il bien respecté en Hongrie comme l'exige le traité de l'UE? C'est ce que la délégation parlementaire qui a spécialement fait le déplacement à Budapest depuis Bruxelles cherche à savoir, Fabien Cazot.
La date de la mission parlementaire n'a pas été choisie au hasard en pleine refonte de la constitution hongroise. Celle-ci affirme notamment la primauté du droit des enfants à un développement mental et moral correct, donnant ainsi une base juridique à la répression anti-LGBT. Un autre texte menace les droits des binationaux, autant d'entorses à l'état de droit que la chef de file des eurodéputés en visite à Budapest, l'écologiste néerlandaise Tineke Strik, a dans le collimateur depuis plusieurs années.
Déjà en 2018, le Parlement européen avait décidé de dégainer l'article 7 du traité de l'Union. Il prévoit notamment que le Conseil européen se prononce sur le respect de l'état de droit et de la démocratie en Hongrie. Nous venons maintenant faire un suivi sur ces questions.
Certains eurodéputés ne comptent pas en rester là. À gauche, la Française Manon Aubry entend bien se rendre à Budapest en juin prochain pour afficher son soutien à la Gay Pride que le gouvernement hongrois veut interdire.
J'y serai avec certains de mes collègues pour finalement porter un message simple à Viktor Orban. En fait, quels que soient les désaccords politiques qu'on a, l'état de droit ne se négocie pas dans l'Union européenne.
La Commission européenne a également tenu à exprimer depuis Bruxelles son soutien à la communauté LGBT hongroise.
L'épidémie de chikungunya atteint son pic. À La Réunion, l'ARS élargit la campagne de vaccination gratuite à davantage d'habitants. Solène Lehen, jusqu'à maintenant, elle était réservée depuis la semaine dernière aux plus de 65 ans souffrant de maladies chroniques.
Soit ils se méfient de ce premier vaccin contre le chikungunya, soit ils ont déjà été contaminés ces derniers jours par le virus. Mais les plus de 65 ans souffrant de maladies chroniques ne plébiscitent pas ce vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva. Au bout d'une semaine, seulement 2500 doses gratuites administrées sur les 40 000 mises à disposition par l'État. Alors Gérard Cotelon, le directeur de l'Agence régionale de santé, a décidé d'élargir les critères pour en bénéficier.
Nous allons élargir tout de suite aux plus de 65 ans et plus 18 ans avec comorbidité. C'est la vaccination qui va arrêter l'épidémie. Alors, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle l'immunité communautaire, c'est-à-dire les gens qui attrapent la maladie, qui sont protégés naturellement après. Mais c'est la vaccination qui va nous aider à arrêter cette épidémie. Donc, quand on a la chance d'avoir la vaccination, il faut se faire vacciner, notamment les personnes les plus fragiles.
Les femmes enceintes et les nourrissons ne pouvant pas être vaccinés, 15 000 moustiquaires seront distribués pour lutter contre le moustique tigre qui transmet le chikungunya.
Je sais que ce n'est pas une tradition réunionnaise de dormir sous moustiquaire. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à en trouver ici. Donc on a passé commande auprès d'un fournisseur réunionnais Les moustiquaires vont arriver demain.
Ces moustiquaires seront offertes aux femmes enceintes et aux parents à la sortie de la maternité.
Solène Lehen pour France Culture. Et puis, c'est un référentiel métier actualisé 15 ans après le précédent. On vous parle d'un outil du Collège de médecine générale qui regroupe syndicats, structures académiques et scientifiques, organismes de formation qui réfléchissent à la profession de généraliste. La spécialité à part entière, dotée d'une filière universitaire en 2007 seulement, est parfois considérée comme moins noble que la chirurgie ou la cardiologie. Pourtant, les médecins généralistes sont au cœur du système de soins, Tarach Legal. Dans ce document, ils interrogent leurs valeurs et leurs missions.
Ce référentiel est un trésor de consensus forgé dans la collégialité, dit en introduction Paul Frappé, qui préside en ce moment le Collège de médecine générale. Alors l'une des idées fortes, c'est de rappeler le socle qui repose sur ces médecins qui dispensent des soins primaires. Docteur Racha Onesi est généraliste à Bordeaux, elle est aussi chef de clinique, ce qui est un statut universitaire, et elle a co-rédigé le référentiel avec d'autres médecins, comme Antoine Debeco, qui lui a fait ses études en 1972. Ce sont donc deux générations qui dialoguent ensemble et qui se sont entendues pour écrire le référentiel.
C'est un métier qui est humain, qui est exigeant, qui repose sur une démarche scientifique extrêmement riche. C'est quelque chose moi, que je cherche beaucoup à travailler avec les étudiants en stage à l'université. Quand on parle d'EBM, on visualise les articles scientifiques, les données de la science,
EBM,
l'evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les preuves. Et on réduit ça beaucoup. Bon, bah, voilà, c'est les données scientifiques pures et dures et rien d'autre, alors que pas du tout. C'est vraiment la richesse de croiser ces données-là avec la situation particulière d'une personne qu'on a en face, qu'on prend dans sa globalité. C'est pas juste un problème de santé. C'est pas juste un problème d'organe, c'est une personne dans son entièreté. Et puis qu'on vient nourrir aussi à la lumière de notre expérience en tant que professionnel. Et voilà, la médecine générale, c'est toute l'exigence et la beauté de cette approche-là du soin.
L'idée d'avoir co-écrit tout ça,
docteur Debeco,
c'est effectivement de voir comment, dans cette activité qui est du premier recours, nous nous inscrivons comme un des éléments essentiel, j'ai envie de dire, dans le parcours de soins des patients pour améliorer la réponse que nous pouvons leur apporter dans leur santé.
C'est simplement, je pensais en écoutant Antoine, un des éléments qui avait été assez amusant au cours de tous les échanges, dans tout ce qu'on fait comme mission, etc. À un moment, on est dit, mais en fait, on fait du soin, quoi. Et donc, c'est vrai que ça paraissait être une telle évidence. Et donc là, l'un des exercices intéressants, ça a été aussi avec le référentiel de se redire, OK, mais du coup, concrètement, soigner en tant que médecin généraliste, qu'est-ce que c'est?
C'est entre autres être un chef d'orchestre au cœur de plusieurs métiers. Racha Onesi.
On peut partager en fait des actes typiquement dans le suivi en santé de la femme. On est trois professions à pouvoir faire du suivi en santé de la femme. Par exemple, sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, on est médecin généraliste, les sages-femmes, et puis nos collègues aussi en gynécologie. Mais en fait, la façon dont moi je vais amener ma consultation en tant que médecin généraliste traitant d'une patiente va pas être forcément le même qu'un collègue ou une collègue sage-femme ou qu'un collègue ou une collègue gynéco. Voilà, c'est ces chevauchements. Ils sont aussi une source de richesse plus que de menaces, en fait, hein, dans l'organisation. Et après, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour faire mieux? Pas que nous, on ne demande pas d'être des mini-cardiologues, des mini-gastro, enfin, c'est pas ça.
Ce référentiel se veut donc aussi un outil important pour dialoguer et avec les patients, et avec les pouvoirs publics, et avec les autres professions médicales.
Un dossier signé Tara Schlegel. Au Soudan, après plus de 2 ans de guerre civile sans issue, la violence est montée d'un cran. Depuis le mois dernier, 125 000 personnes ont été déplacées, alerte le bureau onusien de la coordination des affaires humanitaires. Le plus jeune pays du monde, riche en pétrole, mais extrêmement pauvre par ailleurs, subit de violentes exactions dans plusieurs régions, notamment dans le nord-est, au cours desquelles 180 personnes sont mortes et 250 autres ont été blessé, selon OCHA. Un enfant meurt chaque jour en tentant de traverser la Méditerranée. C'est l'estimation de l'UNICEF qui publie un rapport aujourd'hui. Selon l'ONG, 3500 enfants sont morts ou portés disparus en mer entre l'Afrique du Nord et l'Italie. Mais ce chiffre pourrait être largement sous-estimé car de nombreux naufrages ne sont pas détectés, faute de survivants pour témoigner. Emmanuel Macron plaide pour la réouverture d'une perspective de solution politique à deux États auprès du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les deux dirigeants se sont entretenus par téléphone aujourd'hui. L'occasion pour le président français de rappeler sa position pour un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et l'ouverture de points de passage pour l'aide humanitaire à Gaza. Mais sans surprise, le Premier ministre israélien s'est fermement opposé à la création d'un État palestinien, ce qui constituerait, selon lui, une énorme récompense pour le terrorisme. Le temps pour demain, de la pluie attendue sur la façade est. Ailleurs, ce sera plus sec avec des éclaircies. Les températures chutent. Au lever du jour, il fera entre 1 et 7 degrés pour les maximales. Elles atteindront 12 degrés à Aurillac et à Metz, 14 degrés à Tarbes, 15 à Reims, 16 à Nice et jusqu'à 18 en Corse. Ce journal a été préparé avec l'aide de Waïba Ibrahim à la technique. Élise-le.